Chers amis, bonjour. Alors, on est un peu moins nombreux que prévu, mais normalement, il y a du monde qui va arriver en cours de route, parce que, voilà, la RATP ne nous aime pas. Bienvenue à tous. C'est la deuxième année. On est très, très contents que vous soyez là. On est très impressionnés par le nombre de gens qui veulent venir. Ça se voit pas, mais normalement, vous êtes plus nombreux. Avant tout, j'aimerais remercier très, très fort les gens qui nous aident à faire Paris Web. Je vois que Jean-Louis Carves d'IBM doit être lui aussi dans les bouchons. On remercie énormément l'INSIA qui nous prête la salle que les uns parmi vous, certains, verront samedi. On remercie Erol aussi, qui nous soutient pour plein de bonnes raisons, forcément. Assez vite un planning de la journée. On va commencer par Samuel Latchman, que vous allez voir dans pas longtemps, qui va nous faire une présentation sur les enjeux de la production web. Juste un petit truc sur les slides, vous allez voir qu'on a inversé deux présentations parce qu'on a eu un petit souci de dernière minute. Au final, peut-être que vous aurez quand même les présentations dans l'ordre qui était prévu, parce que l'oratrice qui devait être là pour 10h35, pour le moment, j'ai pas de nouvelles, donc on verra. Merci la RATP. Voilà, sinon, le reste, je vais pas vous embêter à vous lire tout le planning. Juste une petite chose, on va être très précis sur les horaires parce qu'il y a énormément de volume à couvrir. Donc cet après-midi à 13h30, on commencera, quoi qu'il se passe. Donc merci d'être à l'heure. Vendredi, on va faire une petite table ronde. Il y a ici une jolie boîte à table ronde, qu'on appelle aussi un carton dans notre jargon. Vous avez du papier dans vos chemises, donc si vous voulez bien noter les questions et les insérer dans ce carton, on essaiera de prendre les questions intéressantes, bien sûr. Et voilà. Donc merci de mettre vos questions là-dedans. On voulait féliciter très fort les deux gagnants du petit concours qu'a organisé Tristan, qui s'excuse de ne pas être là, mais voilà, il a pas mal d'obligations en même temps. Est-ce que dans la salle, il y a déjà Benjamin Decoq ? Voilà, donc il est resté à Bruxelles. Benjamin Nizet, l'autre gagnant, enseignant.be, lui, il m'a prévenu ce matin qu'il ne pourrait pas venir à cause des grèves. Voilà, un petit coup de pouce à ces deux personnes parce qu'ils ont fait des sites qui non seulement sont jolis, mais en plus sont pleins de contenu et en plus sont valides. Voilà, une petite pierre dans notre jardin. Ouais, un petit truc qu'on avait bien aimé l'année dernière et on ne devait pas être les seuls. Ce soir, il y a un petit apéritif, ou un gros apéritif, ça dépend du nombre que vous serez à venir, organisé par Mozilla Europe. Est-ce que Paul Rouget est arrivé ou pas encore ? Non, pas encore. Ça se passera au Haut Cantina pour les gens qui étaient là l'année dernière, c'est le même endroit. Normalement, est-ce qu'il faut que je lise l'adresse ou est-ce que tout le monde arrive à la lire ? Ça va ? Sinon vous criez, hein. On vous invite à crier. Métro du Gommier, ligne 6, c'est plus près, sinon vous voyez, il y a pas mal de solutions de secours. Doménil, ligne 8, Reuilly d'Hydro, ligne 1, Nation. Voilà, on espère vous voir nombreux à partir de 19h30, si j'ai bonne mémoire. Je ne l'ai pas noté sur les slides. Dites-moi oui. D'accord. Voilà. S'il vous plaît, éteignez vos téléphones. Je sais qu'il y avait des petits panneaux à l'entrée, mais pensez-y par respect pour les orateurs, parce qu'ils ont déjà du mal à se concentrer. merci à tous, et puis bonne conférence.
Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez suffisamment bien, au fond ?
Oui.
Je vois déjà. On est entre nous, vous n'êtes pas obligé de bloguer tout de suite ce que je vais raconter. Pour ceux qui sont en Wi-Fi connectés dans le fond. Alors, je me présente d'abord. Je m'appelle Samuel Latchman, j'ai 33 ans, je fais 1m88, 110 kg, 46 de pointure. Je suis directeur de production chez MRM Worldwide. MRM Worldwide, c'est une agence de marketing relationnel qui est sur Paris, sur Clichy plus exactement, qui est une filiale d'un groupe énorme, un groupe de publicité américain qui s'appelle McCann Erickson. Et comme toute bonne agence de communication qui se respecte, mon agence fait plein de choses, de la communication print, du web, du data mining, c'est de l'analyse de données. du conseil et aussi, ce qui est assez rare en France en tout cas, elle a un call center, c'est-à-dire qu'on a des téléconseillers. Par exemple, le centre d'appel des consommateurs de Nestlé, c'est chez nous. Qu'est-ce que je fais chez MRM Worldwide, donc direction de production, c'est il y a trois pôles à l'intérieur de ce qui est le web chez nous. Il y a la création, là on regroupe les directeurs artistiques, les concepteurs rédacteurs. Il y a le studio, les intégrateurs, flasheurs, web designers, développeurs, webmasters, et les chefs de projet qui sont regroupés dans un pôle commercial. Moi, je suis un peu l'interface entre le pôle commercial et les studios parce qu'il y a à peu près à tout moment une cinquantaine de projets qui arrivent comme ça, qui sont suspendus au-dessus de nos têtes et que j'essaye de faire caser à peu près dans les 25 personnes qui sont en interne et dans tous les prestataires avec lesquels on travaille. Pourquoi c'était important que je vous raconte ça? Parce que la qualité web, ça dépasse une technologie, ça dépasse un métier. Un métier, ça dépasse une bonne pratique appliquée à ce que vous faites tous les jours. Moi, en tant que directeur de production, j'ai le privilège, et si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, j'aime ça, donc c'est pour moi un privilège, de voir tous les métiers sur le même plan, de voir tous les projets, quels qu'ils soient, arriver en même temps, et de voir tous les interlocuteurs débarquer à ma table, chacun avec ses problèmes. Et c'est là qu'on voit que la qualité web, c'est quelque chose qui est plus subtil et plus transversal que les standards, que l'accessibilité, que l'ergonomie. C'est tout en même temps et rien de tout ça, et ça commence aujourd'hui dans des détails qu'on n'arrive même pas à voir généralement parce qu'on a la tête dans le guidon, parce que les métiers qu'on fait sont à la fois jeunes, mais déjà dans une logique de production capitaliste qui fait qu'on est obligé de galoper pour sortir des choses en temps et en heure. Si possible, on les fait bien, mais c'est si possible. Typiquement, dans une agence où on fait un peu tout, la particularité d'une agence, c'est souvent d'avoir un gros client, et à ce client, on lui dit « oui, tout ce que vous demandez, oui, on va le faire ». Au moment où vous le demandez, on ne sait pas si on est capable de le faire. On vous dit « oui » d'abord, et puis après, on verra comment on s'arrange. Parce qu'on se dit que ben, si nous, on n'y arrive pas, on va aller trouver les prestataires qui nous aideront à le faire. Mais voilà, ça veut dire que, encore une fois, particulièrement en agence, mais pas que, on est amené tous les jours à trouver des solutions et à essayer de consolider des métiers différents, des pratiques différentes, des perceptions différentes, tout ça pour arriver sur un produit qui, au final, sera jugé de la même manière que n'importe quel autre. Le site que vous visitez dans votre navigateur, vous ne savez pas et vous vous en fichez de savoir qui l'a fait, quelle équipe il avait, quels moyens. Vous regardez juste, et ben, vous jugez de sa qualité selon vos critères, les critères qui vous appartiennent, et c'est un peu tout. Qu'il y ait une équipe de deux personnes derrière qui ont bossé dessus pendant 6 mois ou de 50 pendant 2 semaines, ça n'a aucune importance. Mais au niveau métier, il faut pouvoir combiner tout ça et moi qui ai donc la possibilité de voir tout en même temps, eh ben je réalise qu'on en est loin. Et à mon niveau, au jour le jour, dans ma boîte, moi je ne parle jamais de standard par exemple. Même à des gens qui connaissent parfaitement ce que c'est, je ne leur parle jamais de ça. Je ne leur parle même pas de bonnes pratiques, je leur parle simplement de qualité dans leur travail, de rigueur dans leur travail. Ce qu'ils doivent faire pour y arriver dans leur métier, ils le savent généralement. Alors on prend les gens à différents niveaux. Évidemment, on ne tient pas le même discours à quelqu'un qui a déjà 10 ans d'expérience dans sa branche et un junior qui sort de l'école. Le seul problème, c'est que il ne travaille jamais tout seul. Il est dans une équipe. Et sa manière de travailler à lui, avec ses 10 ans d'expérience ou avec ses 1 an d'expérience, n'est absolument pas la même généralement que son collègue assis à côté de lui sur le même bureau qui fait exactement la même chose et qui parfois va bosser sur le même projet. Si sa façon de voir la qualité n'est pas la même que son collègue qui fait le même travail, comment sera-t-elle la même que son chef de projet qu'il voit tous les jours mais pas en permanence? Comment sera-t-elle la même qu'un prestataire avec lequel il est amené à travailler qui fait à peu près la même chose mais qui vient d'ailleurs et qui a encore une perception différente, etc. Tout ça se réplique. Alors c'est un sujet un peu énorme finalement, la qualité au niveau du champ des métiers du web, donc on va vraiment l'effleurer malheureusement. dans le temps imparti, c'est tout ce qu'on pourra faire. Donc j'ai pris quelques enjeux au hasard. Le premier, c'est bêtement se connaître. Parce que la production web avec un grand P, c'est quoi ? C'est vraiment la grosse évidence. Tous les métiers nécessaires à l'aboutissement d'un projet web. Au début, j'avais marqué site plutôt que projet, mais projet, c'est plus global parce qu'on parle de la même chose qu'il s'agisse de réaliser un site statique, un site dynamique, une application complète, une pauvre bannière, tout ça, c'est la même chose. Ces métiers-là sont impliqués. Donc, je les liste rapidement et je les ai placés d'une manière un peu particulière. C'est pour une bonne raison. Chef de projet, consultant, web designer, directeur artistique, concepteur, rédacteur, traducteur, graphiste, illustrateur, animateur, sont traditionnellement des métiers qui viennent de la communication, qui ont été répliqués, qui étaient existés dans le print, éventuellement un peu dans la télévision, qui ont été répliqués sur le web. De ce côté-là, vous avez plutôt les métiers qui viennent de l'informatique, c'est-à-dire développeur, administrateur réseau, aussi chef de projet, consultant, mais pas les mêmes, ce qu'on va voir. Et enfin, les métiers mixtes, ergonomes, architectes de l'information, voire ceux qui sont vraiment nés par et pour le web. Là, il reste webmaster. Ces métiers-là, comme je disais, se retrouvent pas nécessairement dans les endroits où on a l'habitude de les trouver. Il y a les web agencies qui sont, on va dire, les seuls aujourd'hui à avoir un modèle d'organisation tourné autour du web. Il y a les agences traditionnelles, qui sont des généralistes, qui faisaient déjà de la communication multi-support et qui ont pris le web comme un support de plus. Il y a les SS2I, celles qui sont passées en tout cas de l'application bureautique traditionnelle et qui ont ou qui sont en train de migrer vers l'applicatif web. Il y a les entreprises tout court, là c'est déjà un plus gros fourre-tout, c'est-à-dire que par exemple, je connais un développeur web qui fait du .NET, il travaille dans une entreprise de fabrication de chemins de câbles. C'est aussi éloigné de l'Internet que ça pourrait être. Pourtant, ce développeur-là, qui a un profil très convenable et qui pourrait parfaitement travailler en agence ou en SS2I, il travaille dans une entreprise de fabrication de chemins de câbles. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines, ce n'est pas nécessairement des grandes boîtes. Il se trouve aujourd'hui qu'il y a des entreprises, des petites entreprises, des grosses entreprises, qui ont besoin d'avoir des métiers du web chez eux tous les jours. Il y a enfin les freelances, des professionnels, mais qui restent à leur compte, ou tout seuls, ou en très petite structure. Et les particuliers, c'est rare, mais je le note parce que ça arrive quand même encore. Il n'y a pas si longtemps encore que j'ai vu, pour un mini-site, avoir un client d'un grand compte qui va nous dire « Mais pourquoi je vous payerai, vous, l'agence, alors que j'ai le fils de ma belle-mère là, qui fait des sites dans sa chambre, il fait ça vachement bien, et enfin moi je trouve, et il va me faire ça pour beaucoup moins cher et beaucoup plus vite que vous. » C'est anecdotique, mais ça existe quand même. Le résultat de tout ça, c'est des métiers qui sont les mêmes quelque part, mais qui sont dans des structures si différentes que leur perception et leur définition sont différentes. Et c'est là ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que ces gens-là sont amenés à travailler ensemble. Quelqu'un qui est dans une agence aujourd'hui, il va peut-être se retrouver dans une SS2I demain ou dans une entreprise après-demain. Il va apporter ses définitions de son métier, ses définitions du métier de ses collègues et sa perception de ce que c'est que de faire un métier de qualité. Il va l'apporter avec lui, il va la transposer dans l'entreprise où il va arriver et là, il va se heurter à la perception de son métier qu'en a l'entreprise, qui n'est pas nécessairement, et c'est là où ça devient important, qui n'est pas nécessairement la même que la sienne, parfois de manière subtile, parfois de manière radicalement différente. Le plus intéressant, à mon niveau, c'est que ces perceptions différentes de ce que c'est qu'un métier, de ce que c'est qu'un directeur artistique, de ce que c'est qu'un développeur, se retrouvent parfois à l'intérieur de la même entreprise, typiquement en agence, encore une fois parce que ce sont des généralistes et que c'est là où il y a le plus de mouvement. Maintenant, je prends un petit exemple. On va rester sur un focus très précis, l'étape de la construction d'un site où on est entre les premières maquettes graphiques et la transformation en flash. Pourquoi le flash ? Parce qu'il se prête très bien à ce flou dans la définition des genres et des limites. Alors, le jeu du « c'est quoi mon métier ?» Regardez pas tout de suite toutes les barres. Prenons l'exemple d'un mini-site à faire. Il est tout en flash, il n'est pas dynamique, donc il n'y aura pas vraiment de développement. Il est tout simple, il y a peut-être 4 rubriques. Et à l'intérieur de chacune de ces rubriques, il y a quelques animations en flash. Je l'ai divisé en 5 étapes qui sont en gros des divisions de planning chez nous. C'est-à-dire qu'entre chaque étape, il y aura une présentation au client qui va faire donner ses retours. Ensuite, on va passer à l'étape suivante. Donc, il y a les premières maquettes graphiques. Typiquement, c'est la page d'accueil et une page représentative ou deux. Là, on est statique. C'est généralement du Photoshop. On montre au client. Deuxième étape, c'est validé. On décline. On est toujours en train de faire des maquettes statiques, mais on fait la totalité des pages qui sont nécessaires. On remontre au client. On obtient son accord, dans l'idéal. Ensuite, on passe... pas nécessairement à la suite, parfois c'est en même temps, mais aux intentions des animations qui comportent le site. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, ça ne se passe pas forcément comme ça, mais c'est l'exemple, il y a quelqu'un qui fait le principe en disant voilà, ça doit bouger comme ça, à tel rythme, il va se passer ça et ça. On présente au client, il est d'accord, il y a quelqu'un qui va finaliser ces animations-là et les faire entièrement. Et ensuite, cinquième étape, la dernière, on assemble le tout, on met en ligne. Donc en dessous, j'ai six exemples de modes de fonctionnement sur la façon de répartir les tâches entre ces cinq étapes. Ces six exemples, vous pouvez les prendre comme vous voulez. C'est soit six entreprises différentes, six façons de penser différentes, ou ça peut parfaitement être, et je l'ai vu, six façons de s'organiser différentes à l'intérieur de la même entreprise. Donc pour ça, j'ai pris quatre personnes possibles, Brian, Steven, Dylan et Serge. Le cas numéro 1, par exemple, nous avons un Brian qui fait tout le site. Je ne vais pas tous les lister, mais toutes les possibilités sont là. À ce stade-là, on a juste des gens, on ne sait pas ce qu'ils font, c'est juste des gens. C'est simple, si vous n'avez pas l'habitude des sites en flash, vous n'avez qu'à me croire sur parole. C'est quelque chose de très simple. Il n'y a pas d'énormes compétences. Alors oui, de la compétence artistique pour faire quelque chose d'intéressant, un minimum de compétences en flash pour faire des animations. Il n'y a presque rien en code. Là, c'est vraiment du très simple. On pourrait très bien, et parfois dans la même entreprise, avoir une personne qui fait tout ou jusqu'à quatre personnes qui se divisent ces cinq étapes en passant par toutes les combinaisons possibles. Ça peut arriver. Ça devient intéressant quand on remplace les noms de ces gens par des noms de métiers. Admettons que je sois donc dans une seule entreprise et je me retrouve devant ces six possibilités. Dans la une, j'ai un directeur artistique, il a tout fait. Dans la 3, par exemple, j'ai un directeur artistique qui a fait toutes les maquettes, qui a fait l'intention d'animation flash, et j'ai un flasheur derrière qui a finalisé ça et qui a monté le site. Dans le cas numéro 5, celui que je vais plus utiliser, il y a trois personnes qui sont intervenues, le directeur artistique qui a fait les maquettes statiques, un flasheur qui a fait toutes les animations et un développeur qui a monté le site. À mon niveau, je commence à me poser des questions. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est possible que un directeur artistique puisse faire tout, la moitié, juste les trucs statiques, ou juste les toutes premières maquettes ? Est-ce que c'est une question de compétence ? Est-ce que c'est une question de structure ? Et quel est le modèle qui fonctionne le mieux ? Il n'y a pas vraiment, on n'est pas en train de passer, on n'est pas en train de changer radicalement de métier. Là, on parle de quoi ? De deux logiciels. On peut se contenter de travailler dans Photoshop et dans Flash sur toutes ces étapes-là. Ce n'est pas tellement plus compliqué que ça. Pourquoi est-ce que j'ai des modèles où une personne va tout faire ? Pourquoi j'ai des modèles où il en faut quatre personnes différentes pour faire ces cinq étapes. Et pourquoi est-ce que je suis en train de me poser ces questions ? Je veux dire, ça marche. Il y a des modèles où une seule personne fait tout, d'autres où il en faut plein. Oui, mais bon, à la fin, le site, il est sorti. On admet qu'il est sorti dans les temps et qu'il a été rentable. Donc, pourquoi est-ce que je suis en train de me poser ces questions-là ? Parce que ça soit à l'intérieur d'une même entreprise ou qu'on parle de plusieurs entreprises, chacun ayant un modèle différent, encore une fois, on a dépassé le cadre du métier individuel. Vous pouvez travailler, dans le modèle 5 et être directeur artistique et vous contenter des maquettes statiques, très bien. Qu'est-ce qui se passe le jour où vous allez vous changer d'entreprise, vous allez dans le modèle 2, on vous demande tout d'un coup de faire la même chose que vous saviez faire, et aussi toutes les animations flash. Il y a deux possibilités, vous savez le faire, et vous le faites avec plaisir. Il y a même trois possibilités. Vous savez le faire, mais vous considérez que ce n'est pas votre travail, ou vous ne savez pas le faire. Ça a des impacts. Ça n'a pas des impacts pour vous nécessairement, parce que vous pouvez arriver en disant « mais moi je ne sais pas le faire ». Bon, bah, très bien, on va trouver quelqu'un d'autre. Ça a des impacts pour l'organisation générale. On se retrouve tout d'un coup, dans le modèle numéro 2, à gérer une équipe où on a d'un côté des gens qui savent faire des maquettes et qui savent faire des animations, et d'un autre, des gens qui ont le même nom, la même définition en apparence, mais qui ne savent pas faire la même chose. Comment on organise tout ça? Parce que derrière, il y a un planning. Quand moi, je fais le planning de mes équipes, on me demande un certain nombre de tâches, ben, du coup, j'ai aussi des disponibilités. J'ai peut-être 2 jours. Dans ces 2 jours, à qui je donne le travail? À celui qui sait faire le tout, parce que, mais qui va prendre plus de temps, ou à celui qui ne sait faire que la moitié, qui va rentrer juste dans les temps? Si on multiplie ce petit exemple au niveau déjà d'une entreprise, en fait, et là je reviens à quelque chose de bête, on se met à perdre de l'argent. Ce qui est dangereux, c'est que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas pendant longtemps. Un projet web, encore une fois en agence, ce que je connais le mieux, est rarement analysé financièrement avant la fin de l'année. Il n'est presque jamais analysé pendant sa réalisation. On n'a pas le temps. On se contente déjà d'essayer de faire sortir le projet dans les temps. Si ça marche, c'est déjà pas mal. L'analyse financière se fait souvent en fin d'année quand on va consolider, les résultats. Et parfois, elle n'est déjà plus possible parce qu'on a manqué, les feuilles de temps ne sont pas remplies. Ou alors 4 personnes sur 5 les ont remplies, le cinquième ne l'a pas fait. Tout d'un coup, on ne sait pas. On sait qu'il y a eu des charrettes pour finir ce projet. Et on sait qu'à côté, on a un super outil de feuilles de temps qui fait que toutes les heures que les gens ont passées au bureau ont été comptabilisées. Donc on sait exactement ce qu'ils ont travaillé au bureau. Mais on sait que certains ont bossé chez eux, ont bossé le week-end. On n'a aucune idée du temps qu'ils ont passé. Pourquoi ça devient important? Encore plus que ça ne l'est déjà. C'est-à-dire que le projet est fini. Oui, il a réussi. Oui, il a un certain nombre de critères de qualité visibles. Mais est-ce qu'on est capable de refaire la même chose? Est-ce qu'on est capable de refaire mieux la prochaine fois? C'est-à-dire la même chose, mais plus rapidement. Ou alors la même chose dans les mêmes délais, mais en étant plus rentable. Ou est-ce qu'on est capable de faire la même chose tout court? Les outils qui permettent d'analyser la rentabilité et la qualité du projet au-delà de « oui, c'est joli, oui, ça marche », aujourd'hui, généralement, on ne les a pas. Mais avant de revenir à ça, donc, je parle des perceptions et des définitions des métiers. Le fait que les métiers du web existent dans plusieurs types de structures, certaines venant de la communication, certains venant de l'informatique, certains venant d'ailleurs, fait qu'on a une sorte de chaos des définitions avec des gens qui pourtant travaillent au jour le jour ensemble et ont en apparence la même définition de leur métier, mais en réalité veulent dire des choses différentes, avec des conséquences plus ou moins graves. Le schéma que vous voyez, les flèches doubles donc indiquent que 2 termes peuvent être utilisés indifféremment pour désigner un poste précis dans un endroit donné. Dans une entreprise A, le créatif qui fait la maquette, on l'appelle directeur artistique. Il se peut très bien que cette même personne qui fait exactement la même chose transposée dans l'entreprise B, on va l'appeler graphiste. Ou on va l'appeler, dans l'entreprise C, DA flasher. Ça a l'air de rien, mais on peut aussi trouver ça au sein de la même entreprise. Le problème, c'est que les glissements sémantiques qui se produisent ici et qui altèrent très légèrement à chaque fois la perception de cette définition métier, il glisse progressivement. Ce qui fait qu'en un seul schéma, toujours dans notre cas de figure où on parle que des maquettes et du flash, je me retrouve à glisser de directeur artistique jusqu'à développeur. Si on prend les 2 termes individuellement, il y a quand même assez peu de chances de confondre quelqu'un qui est censé être un créatif plutôt graphiste avec quelqu'un qui est censé être un technique, voire un informaticien. Pourtant, ça arrive. il y a des gens qui débarquent dans l'entreprise, encore une fois dans mon exemple, plutôt en agence, qui n'ont pas de connaissances préalables de ces métiers, qui sont aujourd'hui, ça fait quand même quelques années qu'on est dedans, donc on a des gens aujourd'hui qui arrivent directement à des postes d'encadrement ou à des postes de supervision, typiquement les chefs de projet, qui sortent de formation, pas nécessairement de formation web, et dont la première impression de ce que sont les métiers du web, les métiers de la production, sont ce qu'on leur en dit dans l'entreprise. Ils arrivent, ils sont un peu vierges, ils découvrent, on leur dit, ben voilà, DA. Le lendemain, quelqu'un leur dit DA Flasher. Ah oui, mais en fait, non, on parle de la même chose. Le surlendemain, quelqu'un débarque d'ailleurs et lui dit, moi, graphiste. Mais chez nous, les graphistes, c'est ceux qui déclinent. Ah non, non, mais moi, je veux dire Flasher, parce que, voilà. Ou je veux dire DA. Tous ces glissements-là, c'est pas pour l'exercice en fait que je les ai reliés, c'est vraiment des glissements réels. Parfois, dans la même boîte, ces termes-là sont employés indifféremment et le glissement se produit, mais de manière généralisée. Ce qui fait que la perception des définitions métiers étant différentes, les attentes de résultats sont différentes. Vous attendez pas la même chose d'un directeur artistique, d'un flasher, d'un développeur. Parfois, c'est la même personne. Vous pouvez utiliser les mêmes noms. Si lui se pense directeur artistique, alors que vous, vous le pensez, ne serait-ce que DA Flasher, vous n'avez pas les mêmes attentes. Et je vous raconte une petite histoire qui illustre ce point-là. C'est l'histoire d'un chef de projet qui travaillait dans une agence A, qui arrive dans une agence B et qui a une bannière de pub à faire. Une bannière toute simple. Une animation, un bouton à la fin, on clique, on va sur un site. Juste avant de livrer sa bannière à son client, le chef de projet s'aperçoit qu'il manque le code de ce bouton. Il retourne voir le directeur artistique qui a fait sa bannière et lui dit « S'il te plaît, est-ce que tu peux me rajouter le code, dans notre jargon le click tag, avant que je puisse livrer cette bannière ?» Et là, le directeur artistique lui dit « Non, je ne peux pas. Comment tu peux pas ? Je ne sais pas, ce n'est pas mon boulot. » Le chef de projet réalise que le directeur artistique n'est pas de mauvaise foi, effectivement, il ne sait pas comment faire. Le chef de projet, lui, il est limite choqué, parce que, encore une fois, si vous n'êtes pas familier avec Flash, c'est vraiment un truc super simple. C'est une ligne de code, à la rigueur, on n'a même pas besoin de comprendre ce que c'est. On copie-colle sur le bouton, et voilà. Pour ce chef de projet en question, c'est limite impensable. Il a un directeur artistique web en face de lui, qui est capable de faire une animation flash dans une bannière, mais qui n'est pas capable de faire un truc aussi simple que de rajouter un code sur le bouton. Du coup, ce chef de projet change de pôle, va au studio d'exécution, où il y a des gens qui s'appellent des flasheurs, et leur dit, ben voilà, j'ai un problème, il me manque un code sur mon bouton, le directeur artistique n'a pas pu le faire, est-ce que vous pouvez me dépanner ? Il dit, ben oui, c'est notre boulot. On lui fait ça en 30 secondes, il est content, il livre sa bannière. Déjà, bon, il y a des différences de perception entre ce que ce chef de projet pense, qu'est un directeur artistique, et la perception qu'a ce directeur artistique de ce qu'est son boulot. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que un peu plus tard, le chef de projet, un peu choqué par cette histoire, raconte l'incident à son directeur général. Il lui dit, oui, tu te rends compte, c'est quand même incroyable, un DA web, il n'était même pas capable de rajouter un code sur sa bannière, j'ai dû aller voir un flasher, quand même, bizarre, quoi, ce genre de DA. Ça aurait pu en rester là, mais ça n'en reste toujours pas là. Le directeur général se retrouve en réunion de manager, encore plus tard. Il raconte de nouveau l'incident, pour lui illustrer aussi les bonnes pratiques et la qualité métier. Il raconte cet incident, et alors là, il faut que je commence à faire attention aux mots que j'emploie. Le chef de projet lui avait dit « Oui, pour moi, un DA flasher devrait être capable de... » Le directeur général, lui, retient « flasher ». Quand il parle à ses managers, il leur raconte « Oui, vous vous rendez compte, chez nous, on a des flasheurs qui ne sont même pas capables de mettre un code sur un bouton. » Et tout d'un coup, on se retrouve en seulement... un intermédiaire par rapport à celui qui avait vraiment vécu l'incident, à avoir complètement inversé la définition de ce qu'était le métier, et deux, à avoir inversé la perception qualité de ce métier. Dans la réalité, on a un directeur artistique qui n'arrivait pas à faire un code, un flasheur qui a rajouté ce code. Une fois que c'est passé, tout d'un coup, tous les managers à cette réunion ressortent avec l'impression que nous avons des flasheurs qui ne savent pas faire quelque chose de basique. Pour un incident isolé et qui n'avait pas de conséquences parce qu'il avait été réparé immédiatement, on se retrouve à voir tout de suite toute une catégorie de gens, parce qu'évidemment, il y a tout de suite des généralisations. On ressort avec plusieurs managers qui sont convaincus que l'essentiel, si ce n'est la totalité des flasheurs de leur pôle exécution, ne savent pas faire des choses aussi simples que poser un code sur une bannière. Tout ça pourquoi ? On a eu un petit glissement. Directeur artistique, DA flasheur, flasheur. C'est ridicule. C'est ridicule, mais pour c'est le glissement entre ces trois mots fait signifie généralement peut-être 6 mois à 1 an de travail de fond à refaire dans l'autre sens, c'est-à-dire du bas vers le haut dans la hiérarchie, à convaincre les managers que non, en fait, les flasheurs ne sont pas si mauvais et qu'ils sont capables de faire des choses simples a priori, et si même des choses compliquées. Mais pendant ces 6 mois à 1 an, il y a des dizaines de projets qui sont passés. Des dizaines de projets, de l'information s'est répandue, donc des dizaines de projets pour lesquels des gens vont arriver, vont voir des flasheurs et vont arriver avec l'a priori qu'ils ne savent pas faire des choses simples. Et là, on n'a même pas parlé de la relation client, on n'a pas parlé de la perception d'un visiteur sur le produit fini, on n'a pas parlé de la concurrence entre deux entreprises équivalentes, on a parlé uniquement des relations internes entre gens qui sont censés comprendre le métier qu'ils font. Ils ne le comprennent même pas. La première démarche, pour moi, dans cette perspective globale de qualité des métiers, c'est déjà d'arriver à parler un langage commun. Alors, c'est illusoire à ce stade un peu de l'évolution d'un métier de croire qu'on va tout d'un coup arriver à une sorte de vocabulaire unifié. C'est probablement même pas la peine d'y penser pour l'instant. De toute façon, tant que les technologies continuent à évoluer, d'ici 5 ans en agence, on va parler de la technologie Microsoft qui voudrait concurrencer Flash. Et à force de parler de Flash, tout d'un coup, son nom m'échappe. Silverlight, merci. Alors, je ne sais pas, peut-être que d'ici 5 ans, on va dire des Silverlighters ou je ne sais pas. On ne saura pas plus exactement ce que c'est, si ce n'est que quelque part ils utilisent ce logiciel, mais qui est déjà complexe, parce qu'on peut aussi y faire des animations, on peut aussi faire du code. Et on n'aura même pas finalisé la définition de ce que c'est qu'aujourd'hui qu'un flasheur ou qu'un flash designer, qu'on sera déjà passé à autre chose. Donc ça, c'est illusoire. Mais aujourd'hui, au niveau d'une entreprise, on peut déjà, et c'est important, travailler à stabiliser les définitions des métiers en particulier. Parce que ça a des impacts sur la qualité et ça a des impacts sur la rentabilité immédiatement. Je prends un deuxième exemple. L'exemple du chef de projet. Le chef de projet, qui est, alors j'ai quelques métaphores un peu vaseuses, la pierre angulaire, le metteur en scène, le pivot du projet. Dans chef de projet, il y a chef, quand même, c'est pas rien. C'est un des rares métiers. Le métier que je fais, directeur de production, ça reste, c'est pas si courant que ça. Par contre, il y a quelque chose de relativement équivalent. Quelle est la personne qui est capable de voir un projet de manière transversale, mais en étant en contact ? C'est le chef de projet. Quelle est la personne qui fait le lien le plus immédiat entre les équipes de production et le client, voire des utilisateurs, si on parle de tests éventuellement, avant que le produit s'enligne, c'est le chef de projet. Ça lui demande, c'est un travail très exigeant quand même, parce que ça demande des qualités qui dépassent les connaissances techniques, qui dépassent ce que nous, on va appeler les connaissances métiers, savoir ce que c'est que HTML, Flash, c'est quoi un développeur, où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on s'arrête. Ça demande des qualités qui sont limites, celles d'une sorte de manager temporaire, parce que, ben voilà, il a une équipe projet, c'est une équipe. C'est lui qui organise le tout, c'est un manager, quelque part, c'est aussi bête que ça. Donc, il doit connaître les forces et les faiblesses, savoir où en est son projet, instant, garantir la communication, maîtriser la rentabilité, savoir dire non, savoir dire oui, et aussi produire. Le chef de projet, c'est aussi un producteur. Il y a un paquet de livrables, j'en ai listé quelques-uns, probablement pas tous. Brief, storyboard, arborescence, spécification, planning, document de cadrage, compte-rendu, etc. Il y en a suffisamment sur un projet volumineux pour que le chef de projet soit considéré comme un producteur à part entière. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Parce que, encore une fois, on a quelque part trois métiers différents qui ont des points communs, mais qui ont des grosses différences, et qui, encore une fois, typiquement dans les agences, qui sont des généralistes, se retrouvent à cohabiter, voire se retrouvent mélangés. On a, en gros, dans les chefs de projet web, des chefs de projet techniques, des fonctionnels et des marketing. J'ai listé un peu les différences. C'est d'abord une différence d'origine et de formation. Chef de projet technique, typiquement des développeurs seniors, passés chefs de projet, avec la formation qui va bien. Les chefs de projet fonctionnels, qui sont les plus hybrides du lot, ont commencé sur le tas, ont commencé dans les métiers de production, ou aujourd'hui font des formations de gestion de projet multimédia qui leur demandent de faire un certain nombre de stages en production. Et enfin, vous avez le chef de projet marketing, qui vient typiquement de la communication ou du marketing classique, qui a une formation d'école de commerce, qui s'appelle aussi chef de projet, mais qui a une orientation différente, forcément. Une orientation plus client, relationnel et stratégique, etc., qu'on ne trouve pas nécessairement chez le projet fonctionnel, le chef de projet fonctionnel et technique. Qu'est-ce qui se passe ? Toujours dans l'exemple d'une grande agence généraliste qui a l'occasion d'avoir ces trois profils, l'occasion, les moyens d'avoir ces trois profils. Il se passe qu'on a trois métiers qui sont très différents, mais qui ont le même nom. Il se passe qu'il suffit d'un rien pour qu'on commence à inverser ces gens-là, et qu'au départ, même s'ils étaient bien placés et sur des projets qui convenaient à leur profil, il suffit d'un rien pour qu'ils se retrouvent sur des projets qui ne conviennent plus à leur profil. Et là, ce n'est pas un détail, ce n'est même pas la différence de définition entre un DA et un DA flasher. On parle du chef du projet, du premier, voire du dernier garant de la qualité du projet. Le premier à qui on peut demander des comptes sur la rentabilité du projet, sur sa qualité et dans tous ses aspects. Qu'est-ce qui se passe dans certaines agences ? On a des agences web, la hiérarchie connaît le métier, sait qu'elle a besoin de chefs de projet fonctionnels, de gens spécialisés dans le web, dans les livrables qui vont avec, qui ont un certain minimum de connaissances techniques, pas nécessairement énormes parce qu'on ne fait pas du gros développement, mais voilà, ils vont chercher des gens qui ont fait de la production, des gens qui ont fait vraiment du multimédia, qui sont plus ou moins seniors dans leur métier, et ils les mettent à ces positions de chefs de projet fonctionnels parce qu'ils savent que ces gens savent comment se passe un projet, savent quel genre de livrable ils sont censés tomber, et savent de manière générale comment faire tourner une équipe de métiers du web. Il peut se produire que la hiérarchie change, la hiérarchie devient plus commerciale. La hiérarchie commence à se dire, tiens, dans mon agence, j'ai des chefs de projet qui suivent à l'année un client donné. On va dire, pour l'exemple, je ne sais pas, une grande marque de voiture, Renault, parce que ce n'est pas chez moi, comme ça je ne risque rien d'en parler, parce que je ne les connais pas. Je suis Renault à l'année. Pour eux, je fais de la communication sur le print et sur le web. C'est bête quand même, j'ai ici des chefs de projet print pour Renault, et là, dans un autre service, j'ai des chefs de projet web pour Renault. C'est quand même pas très pratique pour la communication. Je vais les réunir. Je vais avoir un pôle commercial client où il va y avoir les chefs de projet web et les chefs de projet print. Jusque-là, ça ne change pas grand-chose. Les projets continuent à tourner comme ils avaient toujours tourné. En moins de deux ans, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que ces deux chefs de projet qui avaient un profil très différent au départ, typiquement les chefs de projet print, c'est beaucoup plus classifié et simple quelque part, sans vouloir insulter les gens qui font du print, mais ce sont typiquement plus des chefs de projet marketing. Et les chefs de projet web étaient des chefs de projet fonctionnels. En moins de deux ans, les chefs de projet fonctionnels ont disparu. Il ne reste plus que des chefs de projet marketing. Les projets web, eux, n'ont pas disparu. Le marché étant plutôt bon, voire même très bon. La proportion dans cette agence de projets web augmente, la proportion de projets print diminue. Les projets deviennent plus techniques, le client est fidélisé. En plus, c'est un vendeur de voitures, donc il ne va pas faire que des sites vitrines. Au bout d'un moment, il va demander des applicatifs un peu plus importants. Ça commence par un dealer locateur. Comment trouver son concessionnaire ? Alors, les premiers temps, ça va être juste un petit module en flash avec une liste statique qu'il faut changer à la main à chaque fois qu'on change un détail. Et puis, ça va grossir et ça va devenir une application complète liée à une API de Google où on peut géolocaliser les concessionnaires, accéder à la carte directement, où la liste des distributeurs est mise à jour en temps réel dans une base de données et transformée en XML, etc. Je vous passe les détails. Avec le temps, les services rendus à un même client, aujourd'hui, deviennent de plus en plus techniques. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette agence ? Ces projets sont toujours suivis par des chefs de projet marketing. Il se produit un décalage entre les producteurs, les développeurs, les flasheurs qui construisent des sites, un peu moins avec la partie créative, mais avec la partie technique, en tout cas, il se produit un vrai décalage. On a des gens d'un côté qui sont habitués à faire des choses de plus en plus poussées, qui demandent de plus en plus de connaissances. Ces gens-là sont suivis et prennent les demandes de chefs de projet qui s'y connaissent paradoxalement, donc de moins en moins. Ces chefs de projet, oui, connaissent bien le client, ont de très bonnes relations avec le client, mais ne sont pas capables, par exemple, de filtrer les demandes du client. Quand on se met à parler de, géolocalisation, dealer locator, le chef de projet marketing a plus tendance à être, comme je l'ai marqué, un utilisateur moyen du web, donc ils utilisent les outils, il a tendance à utiliser un peu plus les outils à la mode. Vous pouvez être sûr qu'aujourd'hui, il est sur Facebook, mais est-ce qu'il sait ce qu'est une API ? Il n'y a à peu près aucune chance. Ce chef de projet-là est un interlocuteur unique, généralement, devant le client. Il prend ses demandes, il les transmet à l'équipe de production. Sauf que le chef de projet ne sait pas filtrer. Et c'est là que les ennuis commencent. Le temps qui devrait être consacré à développer, à maintenir ou à construire un nouveau projet est passé, je ne dirais pas perdu, mais souvent perdu, passé uniquement à redéfinir la demande encore et encore. Pourquoi ? Pas parce que c'est facile à dire, le chef de marketing est mauvais, il faut le virer. Il n'est pas adapté. Oui, il y a 2 ans, on faisait des sites statiques, uniquement des vitrines pour ce client. Le chef de mode de projet marketing, ça passait très bien. Aujourd'hui, pour ce même client, on fait des projets très techniques. Nous avons besoin d'un chef de projet technique. Quelqu'un qui, à la fois, comprenne la demande du client, mais qui est capable de la filtrer, de la cadrer, de la transformer en une demande compréhensible pour les développeurs, et aussi de pouvoir dire au client, avant même d'avoir quitté la salle de réunion, « Attends, là, tu délires un peu, ça ne va pas être possible, alors ça va te coûter super cher, je te conseille de... » Savoir dire ça, c'est quand même des années d'expérience et un profil que ne va pas avoir le fameux chef de projet marketing. Le problème, c'est que pour un client, une fois qu'on lui a dit oui, c'est un oui en or massif. Le chef de projet marketing, il est plus là pour vendre. Donc, il a plus intérêt à dire oui. Et c'est plus facile pour lui parce qu'il a moins de connaissances, il est moins freiné par la connaissance d'un chef de projet fonctionnel ou technique qui sait ce que ça va impliquer et qui va dire oui, non, mais là, attends, quand même, pas si simple que ça. Enfin, c'est pas très vendeur de parler comme ça à un client, surtout quand on est en fin d'année et qu'il y a du chiffre à faire. Mais une fois qu'on a quitté la réunion avec le client en lui disant oui, on est lié, pas par contrat, mais presque, parce que beaucoup de choses comme ça se passent quand même à l'oral, on est lié. Il va falloir réaliser ce que le client a demandé de manière non filtrée. S'il a demandé de quelque chose d'impossible, ça va être impossible, mais on va être obligé d'essayer d'atteindre cet impossible. Les compromis qu'on va être obligé de faire, puisque, bien sûr, on ne pouvait pas tout faire, vont être perçus comme le client, comme une mauvaise qualité de la part de l'agence qui a travaillé dessus. Le client, lui, n'est pas censé plus savoir que nous, ce n'est pas son métier. Donc, il a fait une demande, on lui a dit oui. Les mêmes personnes qui lui ont dit oui, maintenant lui disent oui, mais en fait, non, ce n'est pas exactement possible, on va devoir faire des ajustements. le client ne se dit pas « Ah, j'avais mal formulé ma demande, heureusement qu'ils m'ont encadré, on va s'en sortir, c'est quand même bien ce qu'ils m'ont fait. » Le client lui dit « Attendez, je vous avais demandé quelque chose, vous m'avez dit oui, j'ai aligné l'argent, et maintenant vous me dites « C'est pas possible, ça va prendre plus de temps que prévu, vous me demandez de l'argent en plus. » C'est quoi ce délire? Vous connaissez votre métier ou pas? Il a tout à fait raison. Donc, mais là, le client n'est même pas important. Moi, je reste à un niveau interne. L'organisation des métiers, je vois, en moins de 2 ans, on est passé de chef de projet fonctionnel à des chefs de projet marketing. Les projets sont devenus plus techniques. Alors, je me retrouve avec tout un ensemble d'interlocuteurs qui ne savent pas plus que le client ce qu'il demande. Vous rajoutez à ça le chaos des définitions dont on a parlé juste avant, et on se retrouve à devoir créer un certain nombre de postes qui sont des postes comme le mien, mais il peut y en avoir d'autres aussi, dont l'essentiel du temps n'est pas passé à produire quoi que ce soit, dont l'essentiel du temps n'est pas passé auprès des équipes à essayer d'améliorer la qualité de leur travail, mais dont l'essentiel du temps est passé à filtrer les demandes, à les recadrer, à essayer de les comprendre. Ce type de poste pourrait être directement au contact du client, on gagnerait quand même une étape. Ce type de poste n'est généralement pas au contact. Il y a donc un gros temps de perdu, et dans des projets web c'est toujours trop de temps perdu, un temps passé à redéfinir la demande en disant « voilà, le client t'a demandé ABCD, ok, mais moi j'ai l'impression, quand je t'écoute, qu'il a demandé EFGH. Est-ce qu'on peut vérifier ? Ça prend du temps de vérifier ça. Parce qu'encore une fois, moi qui demande des précisions, je ne suis pas en contact avec le client. Mais je ne peux pas me permettre que le travail commence avant qu'on ait défini exactement ces choses-là. Parce que sinon, je sais qu'on va perdre de l'argent tout de suite. Les plannings vont se décaler tout de suite. Comme ils vont se décaler, d'autres projets vont payer. C'est beaucoup de qualité perdue. C'est beaucoup de qualité perdue parce qu'on passe du temps, justement, moins à travailler sur la qualité de ce qu'on sait faire plutôt qu'à essayer de diminuer les risques de nouvelles demandes. Tout ça, ça reste super général. Je vais m'accorder 2 minutes pour un autre enjeu. Toujours dans la logique où on dépasse le stade de l'artisanat dans les métiers du web, où on est encore beaucoup pour la plupart, parce que le champ est jeune, parce que les technologies évoluent vite, et parce qu'on est déjà suffisamment content d'arriver à faire ce qu'on sait faire, on ne se pose pas trop la question de comment on peut faire pareil pour moins cher, de comment on peut faire pareil pour plus vite. Mais cette logique d'industrialisation, elle existe, elle nous rattrape. On ne peut pas être éternellement dans des métiers comme ceux-là, travailler de manière artisanale avec des enjeux de résultats qui sont dans une logique industrielle. Il faut passer de l'un à l'autre. L'idéal, c'est de passer de l'un à l'autre sans perdre la qualité, en l'augmentant si on peut, mais déjà sans perdre la qualité et sans perdre ce qui faisait les avantages d'un mode de travail artisanal. Il y a aujourd'hui, même dans des grosses structures, il y a beaucoup de projets web dont la qualité ne repose que sur les compétences d'un acteur du projet en particulier. Parfois, c'est le directeur artistique, et ça se voit, visiblement. Parfois, c'est le développeur, ça se voit dans la qualité d'animation. Parfois, c'est le chef de projet. Généralement, ça ne se voit pas du tout, mais il a réussi à ne serait-ce que faire tenir le tout en place. Au niveau du projet, ça relevait du miracle. Personne ne le reverra, mais trop de projets dans des grandes structures aujourd'hui sont dépendants d'une personne particulière, et même plus que de la compétence de cette personne, de son investissement. Si cette personne décide d'un peu moins s'investir, on est incapable de reproduire le même niveau de qualité au projet suivant. Il suffit d'une raison. Encore une fois, c'est un jeu d'équipe. On ne peut plus tellement considérer que je vais faire un site où une personne va tout faire et elle est bonne ou elle n'est pas bonne, mais au moins elle a la responsabilité de tout. Aujourd'hui, c'est un peu, moi je le compare de plus en plus au cinéma. Le chef de projet serait un peu le metteur en scène. C'est pas lui qui apporte l'argent, mais c'est lui qui fait que tout marche. Et on a des acteurs dont, alors oui, ils ont des compétences particulières, Oui, il y a un résultat qui est quelque part un peu artistique et pas vraiment mesurable et dont le succès ne va être visible qu'au moment de la sortie. Et c'est le public qui va décider si le produit était réussi ou pas. Mais ce qui se passe aujourd'hui à Hollywood, ce procédé très artistique avec une grosse part de mise de risque est quand même industrialisé et il y a des méthodes qui sont mises en place pour arriver à produire un certain niveau. On sait que en mettant sur la table tant d'argent, tant de moyens, telles équipes, on va arriver au moins à un certain niveau de qualité, qui ne sera peut-être pas suffisant pour avoir des critiques super élogieuses, mais ce n'est pas grave, par contre, parce que ça va faire de l'argent. Et au départ, dans une logique capitaliste, c'est ça qui compte. Il peut se passer un peu la même chose pour le web. Pour arriver à ça, dans mon travail, à identifier deux types de critères qualité. Il y a les critères traditionnels, ce que j'ai noté comme critères de premier degré. Ce sont qui sont visibles immédiatement. Encore une fois, on n'est pas au niveau d'un métier particulier, mais on est au niveau d'un projet au minimum. La qualité graphique, le niveau des animations, ça c'est visible tout de suite. Tout le monde a son avis sur la partie créative, c'est très facile à voir. La qualité de l'écriture, en fait j'aurais dû mettre la qualité du contenu. La justesse des traductions, parce que un site international qui est localisé, généralement, c'est une tendance un peu franco-française. On se concentre sur le contenu dans la langue originale. Par contre, on va trouver une boîte de traduction qui va nous sortir 45 pays différents derrière. Personne n'est capable de juger du niveau de ces traductions. Pourtant, les gens de ces 45 pays, eux, ne verront jamais le contenu que dans cette langue-là. Et eux, ils vont juger à chaque fois qu'il y aura eu des fautes, à chaque fois qu'il y aura eu des expressions inappropriées, etc. L'ergonomie de l'interface, l'accessibilité, l'architecture du contenu, le référencement naturel ou pas, ce sont des critères qui sont visibles soit immédiatement, soit très très vite, et qu'on peut juger de manière assez simple. En tout cas, quand on s'y connaît un peu. Les critères du deuxième degré, c'est ceux qui m'intéressent au fur et à mesure qu'on s'industrialise, c'est ceux qui sont invisibles aux yeux du public, c'est ceux qui sont presque invisibles aux yeux du client et qui généralement ne l'intéressent pas, mais c'est ceux qui deviennent capitaux pour l'entreprise si elle veut être capable de capitaliser sur son projet. Dans une grande boîte, on passe plus de temps à réutiliser des projets existants et à les transformer qu'à en construire de nouveaux. Ça devient une réalité, il y a de moins en moins, c'est ce qui fait que dans des grandes boîtes, c'est un peu moins sexy, c'est que voilà, on passe moins de temps à inventer de nouvelles choses et à fournir de nouvelles idées qu'à dire, ben, tu te rappelles le projet qu'on a sorti pour tel client Italie, ben maintenant ils veulent le même pour la Finlande. Alors bon, il y a la localisation, mais aussi ils veulent telle et telle rubrique en moins, telle et telle fonctionnalité en plus. Ces critères de deuxième degré deviennent capitaux pour savoir si on va être simplement capable de produire le projet ou s'il va falloir le recommencer complètement. La qualité du code, évidemment, et là je parle à la fois de ce qui est, front, HTML et compagnie, ou de ce qui est back, parce que si dans la version 1 du projet, le développeur il a bâclé, ça s'est pas vu, mais l'important c'était de faire vite et bien, et que par contre quand on rouvre le code, c'est tellement incompréhensible qu'il faut réécrire 40, 50, 100% du code, en critère de capitalisation, c'était pas un projet de qualité. Pareil pour le reste, la flexibilité des éléments, pour moi, c'est un peu la même chose, mais les éléments, par exemple, graphiques, pour un site internationalisé, souvent, vous avez des éléments images qui sont différents d'un pays à l'autre. Typiquement, le logo, Nestlé qui fait des céréales dans tous les pays, le logo Nesquik, qui est super travaillé, qui est un petit peu en 3D, qui a des effets autour du texte, il est traduit dans chaque pays. C'est pas quelque chose qu'on peut coder. Si dans la version 1, on a fait quelque chose avec des mauvaises dimensions ou quelque chose qui n'était pas, qui était en flash, mais qui était une image posée au lieu d'être un texte éditable, bêtement, ça veut dire, quand on doit tout de suite localiser ce pays dans une autre langue, ça veut dire, au lieu de 30 minutes peut-être, passer à rendre ce logo dynamisable, ça peut vouloir dire 5 à 8 heures d'infographie bête et méchante à devoir redécouper des nouvelles images, à devoir les réadapter, etc. Ça, c'était un logo. Sauf que je parle d'un site à 200 000 euros qui est, et ce n'est pas des exagérations, c'est ça aujourd'hui, un site qu'on sort dans 40 pays différents, chacun avec ses rubriques. 40 fois 200 000 euros, c'est des enjeux énormes. Et se dire la différence entre un logo que j'ai qui est dynamisé d'un clic et un logo pour lequel il faudra refaire toutes les versions en infographie dans toutes les langues, c'est une différence énorme. La documentation du projet, pareil, quelque chose qui n'arrive jamais ou presque, qui arrive plus dans les projets de type informatique, qui n'arrive jamais dans les projets type vitrine ou type créatif. Pourtant, c'est aussi des projets qu'on va réutiliser. Même chose pour l'archivage des sources. Il arrive que la raison pour laquelle un client, on va vendre la V2 d'un site en disant « Non, vous comprenez, c'est mieux pour vous, ça va être plus cool, on va vous faire de nouvelles choses, on va tout vous recommencer », c'est pas parce qu'on avait des meilleures idées, c'est uniquement parce qu'on est juste incapable de réutiliser la V1 à cause de l'état des sources. Parfois incomplète, parfois carrément inexistante. Il y a deux semaines, on cherchait à modifier une application de maquillage qui datait de 2003, qui était sortie. C'était en l'occurrence pas vraiment une application web. Elle était assez légère pour tourner sur un site. On l'avait mis sur un mini CD. On devait faire des modifications simples. On s'est mis à chercher les sources. On a réalisé qu'à un moment, elles avaient été modifiées par un développeur pour rajouter une version sonorisée. Et du coup, cette version sonorisée n'existait nulle part ailleurs que sur la machine locale de ce développeur. Développeur qui avait quitté l'entreprise depuis plus d'un an. Qu'est-ce qu'on va dire aux clients quand il s'agit de dire ben, « vous avez demandé une modification qui prenait une demi-journée » On ne va pas lui dire « on va vous refaire le site pour le prix d'une demi-journée ». Mais si on ne retrouve pas les sources, on fait quoi? Il n'y a juste pas de réponse. Et c'est un problème qui est payé par l'entreprise et qui n'a pas su gérer son archivage, qui lui coûte très très cher, mais le client n'a aucune raison de le payer et il ne va pas le payer, à moins d'avoir des commerciaux très très performants, et un contrat à l'année sur d'autres projets. Il y a assez peu de chances de rattraper une erreur pareille. La rentabilité, c'est un critère de qualité projet pour moi aussi, bêtement, parce que très lié à la mesure des temps passés, parce qu'on ne peut pas savoir. Si on ne peut pas savoir le projet toujours V1, s'il était rentable et combien de temps on y a passé, on est absolument incapable de savoir combien de temps et combien va coûter la V2. Je parle là de projets qui ne sont pas des produits, je parle de projets très, très customisés. On a fait, c'est souvent du sur-mesure pour le client. Il voulait ça, ça, ça et ça. Eh bien, il a fallu construire de zéro cet assemblage pour pouvoir capitaliser dessus. Il faut savoir, la première fois, on n'avait pas d'expérience. On est parti un peu dans le pif, on a pensé à des projets un peu similaires, on a fait des estimations avec une marge d'erreur super élevée. Bon, ça a servi de test. La V2, maintenant, quand même, on l'a fait une fois, le projet, on l'a sorti. Alors, combien il nous a coûté? Est-ce qu'on est capable de refaire la même chose en gagnant de l'argent? Est-ce qu'on est capable de faire la même chose dans les nouveaux délais qui sont demandés par le client? Eh bien, au bout de cette présentation, je pense que ce n'est pas une surprise. Souvent, on n'est pas plus capable que la première fois de savoir si on va gagner de l'argent ou si on va pouvoir le faire dans les délais. Là, on rentre dans des outils un peu plus précis, typiquement les fameuses feuilles de temps que tout le monde déteste remplir. On pourrait faire une presse là-dessus, juste parler de l'utilité et de comment faire remplir aux gens leurs feuilles de temps, mais... Comment savoir sur des projets qui sont essentiellement du temps passé par des hommes et des femmes, comment savoir ce temps-là s'il n'est pas mesuré? Même un chef de projet particulièrement efficace qui reste au contact, qui sait exactement ce que toute son équipe a fait, est-ce que c'est vraiment lui qui est capable de mesurer à l'heure près le temps passé sur un projet, quand on parle de quelque chose qui s'est étalé sur 10 personnes et 6 mois de travail peut-être? Or, si on ne sait pas les temps passés, on ne peut pas les valoriser, les transformer en coût horaire, on ne peut pas savoir ce que ça a coûté. Typiquement, dans ces cas-là, souvent, quand on demande une évolution de la première version, on se base sur la première facture qu'on a fait au client. Mais cette première facture a été faite sur des bases très imprécises, marge d'erreur souvent supérieure à 100%. Par contre, on ne sait pas exactement quels ont été les temps passés, donc le coût. Et on dit au client, bah, ok, alors la première facture c'était ça, donc vous demandez la même chose. Ah oui, mais un peu moins, pouf, petit rabais ici et là. Mais dans la réalité, on peut se retrouver pour quelque chose qui coûtait 100 à le vendre la deuxième fois à 80, alors que dans la réalité, il a coûté 150. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à aller mesurer non seulement exactement les temps passés au travail, mais aussi les temps passés par les gens le soir et le week-end, ce qui arrive beaucoup, beaucoup en agence. Aujourd'hui, c'est souvent quelque chose qui est demandé aux gens comme preuve de leur investissement dans le travail, en fait. Si vous bossez plus, enfin, vous faites quand même un boulot sympa, c'est quand même Internet. C'est quand même pas n'importe où que vous pouvez jouer à World of Warcraft le midi et installer des logiciels sur votre machine. Je le dis parce que je le fais. Donc, Mais en contrepartie de ça, on vous demande, ben oui, c'est normal de ne pas compter vos heures, c'est normal de faire des charrettes quand il y a une compétition, c'est normal de terminer le projet le week-end. Pourquoi pas ? Mais comment transformer cet investissement en rentabilité si on n'a pas mesuré ? Est-ce que c'est plus malsain de demander aux gens de travailler le week-end ou leur demander combien de temps vous avez travaillé ce week-end ? Si la réussite d'un projet est due à 50% à un investissement invisible des gens, vous êtes incapable de le reproduire la fois d'après, à moins de compter de nouveau sur l'investissement renouvelé de ces gens-là. C'est pas si évident de l'obtenir. Ça, c'est absolument pas quantifiable. C'est ni quantifiable, c'est pas non plus sur quelque chose on peut construire. Encore une fois, typiquement en agence, on compte sur le renouvellement. Les gens qui sont usés, ils partent ailleurs, dans des conditions un peu meilleures pour eux. Les gens, ils sont remplacés par des gens moins usés, mais moins compétents, avec moins d'expérience, etc., etc. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour, on va dire, des gens de mon profil, ou des gens comme vous, si vous dépassez le cadre d'un métier unique, c'est de travailler sur ces critères de qualité de deuxième degré et d'arriver à les identifier.